En esprit et en vérité 13 le culte et les conducteurs spirituels. Sur le point qui nous préoccupe à présent, l'enseignement du Nouveau Testament paraît, à certains, contradictoire. D'aucuns ont même pensé que les apôtres avaient trahi le Christ en structurant les églises locales. Pour d'autres, l'organisation de l'église est laissée à la libre appréciation des chrétiens et les apôtres n'auraient fait qu'user de cette liberté. Cette conception, Christ n'a pas voulu organiser l'église, provient du fait qu'on ne comprend pas la complémentarité entre l'œuvre de Jésus et l'œuvre des apôtres. L'œuvre de Jésus ne s'arrête pas avec sa mort. Son enseignement ne se limite pas aux quatre évangiles. Sans le reste du Nouveau Testament, les quatre évangiles n'offrent pas une base suffisante pour fonder et édifier une église. Dans les évangiles, l'église demeure une réalité du futur, Matthieu 16h18, dont la première mention ne sera faite qu'en Actes 2h42-47. On oublie trop souvent que l'œuvre de Jésus était toute orientée vers le peuple d'Israël. L'église ne fut établie qu'après la résurrection du Christ et ce fut la tâche des apôtres d'en poser les fondements. Il ne pouvait y avoir d'église avant la résurrection, et avant l'ascension de Jésus. Christ ne pouvait être le sauveur et le chef de l'église qu'après avoir été exalté par le Père et aux côtés du Père, Actes 2h32-34, Éphésiens 1h20-23. L'enseignement des évangiles concerne en priorité le peuple d'Israël. Tout ce qui se situe dans les évangiles doit être compris dans la perspective de l'ancienne alliance, de la loi de Moïse. Ce n'est qu'avec la mort, la résurrection puis l'ascension du pour l'Église catholique, l'organisation et du ressort du pape et des évêques, pour les protestants, il y a une plus grande liberté d'appréciation, mais une tendance à vouloir centraliser l'organisation. Rares sont les églises protestantes qui adoptent le principe de l'autonomie des assemblées sans y adjoindre une organisation parallèle centralisatrice. 97, Christ que la nouvelle alliance en son sang entre en vigueur. Sous cette optique on comprendra mieux les paroles suivantes, « Et n'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Allez, prêchez, et dites, le royaume des deux est proche. » Matthieu 10, 6, 7, « Le nez était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 15h24, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Luc 2h29-32, après l'ascension de Jésus, le salut offert d'abord à Israël fut ensuite étendu à toutes les nations grâce au témoignage apostolique, Matthieu 28, 18-16, Marc 16h16-16, Romains 1h16. Dès lors, et en accomplissement de l'Ancien Testament, il n'y a plus qu'un peuple, qu'un seul troupeau réuni par la croix de Jésus-Christ, Genèse 12, 1 à 3, Jean 10h16, 11h52, Éphésiens 2h11-22, Galates 6h15-16, 1 Corinthiens 1h22-25. C'est sur sa propre mort et sur sa propre résurrection que Jésus a voulu établir l'Église. Tout ce que Jésus accomplit pendant son ministère terrestre est en préparation de ces deux grands événements. La croix, la résurrection, l'Église ne sont pas des incidents de parcours mais les moyens par lesquels Dieu sauve à la fois Israël et toutes les nations. Et c'est aussi pour le salut des hommes que Dieu suscite des conducteurs dans l'Église. 1. Les conducteurs spirituels au temps de Jésus avant l'établissement de la Nouvelle Alliance. La connaissance de Dieu et des choses spirituelles reposait sur une connaissance précise et étendue de la loi. Les prêtres, les rois, les prophètes, puis les scribes détenaient et transmettaient cette connaissance. L'Ancien Testament nous raconte, à maintes reprises, l'histoire d'hommes qui ont abusé de leur influence religieuse sur le peuple d'Israël. Mais il faut aussi tenir compte que le peuple d'Israël n'était jamais, pour autant, tenu pour irresponsable de son infidélité. Ce peuple était même coupable dans la mesure où il se soumettait docilement à une tradition qui n'avait plus rien à voir avec la religion, 98, révélée à Moïse et aux prophètes. Le peuple était censé connaître la loi et fut averti de ne pas se laisser conduire aveuglément, confère Deutéronome 13, 1 à 11, Jérémie 23h15-15, Ézéchiel 18, 1 à 32. Jésus condamne les mauvais conducteurs, mais il n'excuse pas pour autant le peuple. Il s'en prend aux conducteurs aveugles, mais aussi à ceux qui se laissent conduire aveuglément, Matthieu 15h14. Et ceux qui se laisseront conduire par des faux docteurs, même parmi les disciples, sont tout aussi coupables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 3, 4. L'homme et la femme de Dieu ont toujours eu le devoir impérieux de ne pas se laisser conduire par n'importe qui, de ne pas se laisser enseigner n'importe quelle doctrine, gardez-vous des scribes. Marc midi 38. Il faut donc tenir compte de deux réalités complémentaires, d'une part, l'abus d'autorité religieuse, d'autre part, une coupable docilité à l'égard de mauvais conducteurs. C'est de là, d'ailleurs, qu'est viennent toutes les sectes. Et les sectes étaient nombreuses à l'époque de Jésus. La secte des Esséniens représente sans doute le degré extrême de cette docilité religieuse. Flavius Joseph en dit quelques mots, ils rivèrent tellement, après Dieu, leur législateur, qu'ils punissent de mort ceux qui en parlent avec mépris et considèrent comme un très grand devoir d'obéir à leurs anciens et à ce que plusieurs leur ordonnent. Les plus jeunes ont un tel respect pour les anciens, que lorsqu'ils les touchent ils sont obligés de se purifier, comme s'ils avaient touché un étranger. F. Joseph La guerre des Juifs contre les Romains édition. Lydie, Paris 1973, page 711-712. Cette docilité envers les conducteurs religieux et notamment envers les prêtres, explique en grande partie les circonstances de l'arrestation et de la crucifixion de Jésus, confère Marc 15h11, Jean midi 42. On comprend mieux certaines paroles de Jésus à propos des conducteurs et dont Joseph dit qu'ils sont ceux que l'on estime avoir une plus parfaite connaissance de nos lois et de nos cérémonies. Ibi, page 713. Et, en effet, ces conducteurs sont souvent érudits, ils connaissent par cœur la loi, ce sont d'excellents exégètes. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus les reprend. Ces spécialistes de la religion aiment faire leurs actions pour être revus des hommes, ils aiment porter de longues franges à leurs vêtements et être revêtus de longues robes blanches, ils aiment avoir, 99, les premiers sièges dans les synagogues, ils aiment la première place dans les festins des grands, ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés maître, père, conducteur. Ils font, pour être admirés, de longues prières, ils sont zélés pour le prosélytisme et font de leurs prosélytes des gens pires qu'eux-mêmes, ce sont des voleurs, ils bâtissent de magnifiques tombeaux justes qu'ils ont assassinés, Matthieu, chapitre 23. En reprenant ainsi les conducteurs spirituels de son temps, Jésus ne s'attaque pas au principe même de la transmission des connaissances religieuses. Lui-même se fera appeler rabbi par ses disciples. Il dira même, « Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. » Matthieu 23h24. Jésus ne s'oppose pas au principe d'une direction spirituelle et le souligne quand il dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Matthieu 23h12. Il est donc important de souligner que Jésus ne s'oppose jamais au principe d'une direction et d'une connaissance spirituelle prodiguée par des hommes qualifiés. Mais il s'oppose à l'utilisation de l'influence religieuse pour couvrir ou justifier l'injustice, pour imposer des traditions ou pour s'élever devant les hommes. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23h28. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23h12. Mais l'on peut être un conducteur spirituel sans pourtant s'élever, Hébreux 13, 7, un père spirituel, sans chercher à se faire appeler père, un Timothée 1, 2, un enseignant ou un pasteur, sans se parer de titre ou sans se démarquer par un vêtement particulier, Éphésiens 4h11. 2. Les conducteurs spirituels dans l'Église. Le Nouveau Testament éclaire sur un point qui nous semble fondamental, il n'y a pas, dans l'Église, une catégorie d'individus intouchables ou infaillibles. Paul dit aux évêques d'Éphèse, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Actes 20h29-30. Pierre écrit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux, sans, docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. » 2 Pierre 2, 1 à 3. L'exhortation de Pierre aux anciens constitue un avertissement dans le même sens, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » 1 Pierre 5, 1 à 3. Dans l'Église, et il en fut toujours ainsi, même dans l'Ancien Testament, Dieu exige, de la part des conducteurs spirituels, des qualifications spirituelles les habilitant à accomplir leurs tâches. L'apôtre Pierre tient à ce que l'ancien soit un modèle, Paul tient à ce que l'évangéliste soit un modèle, 1 Timothée 4:11, 12. D'une manière générale, les épîtres à Timothée et l'épître à Tite soulignent la nécessité d'une qualification spirituelle des conducteurs. La double nécessité pour les conducteurs de remplir des qualifications et d'être des modèles implique qu'il peut en être autrement si l'on n'y prend pas garde. Il est fort possible que des hommes se disent enseignants ou conducteurs spirituels sans, toutefois, posséder les qualifications requises. Mais c'est à Dieu, et non à des hommes, qu'ils usurpent une charge qui ne devrait pas leur revenir. Ce faisant, bien entendu, ils détruisent l'œuvre de Dieu, confère Jean 10:10. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas douter de l'importance des qualifications qui sont exigées de la part des conducteurs spirituels. Cette importance des qualifications spirituelles est soulignée par l'apôtre Paul lorsqu'il les introduit en ces termes, « Cette parole est certaine, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. » 1 Timothée 3:2-6:2 Cette parole est certaine, G.R. Pistologos confère 1 Timothée 1:15. 2 Timothée 2:11. Les versets 1 à 7 de 1 Timothée 3 sont partagés, en grec, par l'expression « il faut » qui introduit une liste de qualifications versets 2 et 7. « Il faut donc », V2, est une forme impersonnelle et se rapporte aux qualifications elles-mêmes, le verbe « être » étant sujet. Le verbe « nommer », « il faut », désigne à travers le Nouveau Testament une nécessité morale ou spirituelle, confère Matthieu 16:21, Luc 2:49. 101. Les conducteurs spirituels doivent donc posséder certaines qualifications pour pouvoir accomplir certaines tâches. Et toutes ces tâches ont un même but, que les disciples deviennent spirituellement accomplis. En Éphésiens 4:1-16, où cette idée ressort nettement, l'apôtre Paul ne fait que projeter au niveau de l'Église tout entière ce que le Christ exige de chaque disciple, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5:48. Et dans les deux textes l'accent est mis sur la perfection dans l'amour. Dieu vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tout. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté », sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les deux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un, sans deux, solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4:1-16, le but de tout vrai disciple du Christ devrait être de parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et pour Jésus ce perfectionnement est lié à un enseignement, confère Matthieu 28:18-20. On retrouve cette idée en Éphésiens 4 où Paul associe la tâche des conducteurs spirituels, des enseignants et la mise en pratique de l'amour. Ce texte de Paul entend montrer que lorsque tous les éléments sont liés, le rôle des conducteurs spirituels, l'enseignement de la vérité, la pratique de l'amour, le corps de Christ, l'Église, peut alors s'édifier. Ces éléments constituent, en outre, une protection à l'encontre de l'erreur, Éphésiens 4:14. Mais notons bien que si la doctrine et l'œuvre des conducteurs spirituels permettent de réaliser le perfectionnement de toute l'Église, il ne faut pas négliger les conditions premières posées par Paul et qui tiennent d'abord en une unité d'esprit ou de sentiment. Tous ceux qui professent suivre Jésus-Christ doivent manifester une unité d'esprit, Éphésiens 3:1-3, unité qui précède l'unité structurelle, formelle ou d'organisation. Cette unité d'esprit se fait sur la base de l'humilité, de la douceur, de la patience, de la paix. Dieu vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Second a parfaitement raison de mettre un E minuscule à esprit. Il est question de paix dans ce texte car la paix entre les hommes doit être la base de toutes leurs relations ou associations. La sagesse d'en haut a ses exigences premières, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, nous dit Jacques, Jacques 3h17, 18. Il y a des choses à faire premièrement parce qu'il y a une démarche logique dans la religion pure et sans tache, comme le montre si bien Jacques dans son épître, confère. Jacques 1h26, 27. S'il n'y a pas, entre ceux qui professent la foi en Jésus-Christ, une unité d'esprit se manifestant par un comportement digne de l'appel du Christ, l'unité au niveau de la connaissance doctrinale n'est plus qu'une utopie. N'oublions pas que les pharisiens étaient doctrinalement unis, mais quel était leur état d'esprit? Comment se comportaient-ils les uns à l'égard des autres? Avaient-ils de l'amour les uns, 103, pour les autres conférés? Matthieu 5h46. Mais l'unité d'esprit, de sentiment, de cœur, ne suffit pas. Il faut aussi une unité au niveau de la profession de foi et de l'obéissance à la foi. Cela, Paul le souligne en Éphésiens 4, 4 à 6. Il est vain pour des croyants de chercher à s'unir ou à se perfectionner s'ils ne croient pas et ne se soumettent pas au même Seigneur, s'ils ne reçoivent pas la même foi de l'Évangile, confère Romains 1h16, s'ils ne reçoivent pas le même baptême, baptême ordonné par le Christ pour ceux qui croiraient, Matthieu 28, 18,19, Marc 16h16, Actes 2h36-38. La foi et le baptême constituent la réponse de chaque disciple à la bonne nouvelle, confère Marc 16h16. Tous sont fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et tout revêt Christ dans le baptême, Galates 3h25-29. Par conséquent, tous sont la postérité d'Abraham et héritiers selon la promesse, Galates 3h29, confère Luc 1h54, 55. Dans ce texte, Galates 3, l'importance de la foi et du baptême est soulignée par leur relation avec la promesse faite à Abraham. On ne fait certes pas justice à l'enseignement apostolique lorsqu'on relègue le baptême à un sacrement d'église. Répétons-le, sans une unité d'esprit, qui doit prévaloir chez tous ceux et toutes celles qui prétendent suivre Jésus, sans une réponse adéquate à la bonne nouvelle, par la foi et le baptême, il n'y a pas de base suffisante pour rechercher la perfection et, par conséquent, le rôle des conducteurs spirituels est perdu de vue. En somme, s'il n'y a pas l'Esprit du Christ, il n'y a pas réellement d'Église du Christ et le Seigneur ne peut pas répandre ses dons pour le perfectionnement des saints. On ne dira jamais assez que la responsabilité première des conducteurs spirituels, c'est d'être eux-mêmes des hommes accomplis. Il importe donc pour l'apôtre Paul que ceux qui aspirent à la charge d'évêque ne soient pas des hommes jeunes ou des nouveaux convertis, ils sont d'ailleurs appelés anciens, Tite 1, 5 SS. Le mot « économe », utilisé par Paul, décrit bien le rôle de l'ancien. Ce mot désigne, dans le Nouveau Testament, un serviteur de maison qui surveille les autres serviteurs et s'assure qu'ils accomplissent convenablement leurs tâches. 3 Jésus fait une distinction entre le rôle de l'économe et celui des autres serviteurs, Matthieu 25, 45. Parlant 3 en grec ou économo, confère. L'économe fidèle en Luc midi 42, l'économe infidèle en Luc 16, 8, les dispensateurs des mystères de Dieu 1 Corinthiens 4, 2, les dispensateurs des diverses grâces de Dieu 1 Pierre 4h10. 104, de lui-même et des autres apôtres, Paul écrit, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs, ou oikonomo, des mystères de Dieu. Au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 1 à 3. À certains égards, tous les disciples de Jésus sont des économes de Dieu. Les apôtres sont économes des mystères de Dieu, confère Éphésiens 3, 1 à 5, les anciens sont économes dans l'assemblée locale, Tite 1, 7, confère 1 Timothée 3h15, et tous les disciples sont économes des dons qu'ils ont reçus, 1 Pierre 4h10. Les termes apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ou anciens délimitent, dans le corps de Christ, les différentes charges qui incombent aux économes de Dieu. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes ou docteurs, tous ne font pas des miracles, 1 Corinthiens midi 27-30. En tout cas, les vrais économes de Dieu ont toujours en vue la croissance spirituelle des disciples du Christ. Ils ont toujours su enseigner l'importance et la pérennité de la foi, de l'amour et de l'espérance, 1 Corinthiens 13h13, qui doivent être la base d'un culte agréable à Dieu.